franceinter.fr.
Quatre pattes noires, un corps tout blanc, une touche de noir à nouveau sur les oreilles et autour des yeux. Voici le pelage caractéristique du panda. Pourquoi tant de contrastes et pourquoi ces zones en particulier? Eh bien, une équipe de biologistes animaliers et de généticiens propose aujourd'hui une explication exhaustive des fonctions de ce pelage caractéristique du panda géant. Et pour en parler, nous sommes avec vous, Jérôme Pouille. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour Axel.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste et passionné de panda. Vous êtes d'ailleurs le créateur et administrateur du site panda.fr. Alors, pour résumer cette étude, Jérôme Pouille, on pourrait dire que le pelage du panda sert à la fois à se cacher et à être reconnu dans le même temps. Ça vous semble exact ou pas?
Oui, alors c'est les conclusions en effet de l'étude qui s'est penchée sur cette particularité de la bicoloration du panda et qui en conclut finalement que le blanc, que ça soit le corps et la tête, ont une fonction de camouflage, principalement par rapport à un environnement hivernal et en particulier recouvert de neige. Et par contre, pour les taches noires, l'étude fait la dissociation entre la partie corps et la partie tête. Le corps aurait aussi un rôle de camouflage, alors cette fois-ci plutôt pour se confondre avec les ombres dans l'environnement. Et pour la partie tête, les taches noires, oreilles et yeux. Donc pour les oreilles, les auteurs pensent que ces taches noires auraient un rôle finalement de communication pour éloigner d'éventuels prédateurs, avec un rôle de férocité amplifiée. Et pour la partie yeux, ça serait plutôt pour une reconnaissance intraspécifique, donc entre les différents individus panda au sein de leur habitat. Donc c'est quelque chose qui vient confirmer finalement une hypothèse que la plupart des scientifiques avaient déjà et qu'on retrouve également chez d'autres espèces, c'est que le pelage, en effet, il a à la fois un rôle de camouflage dans l'environnement et puis un rôle plus social, on va dire, au travers de la communication, que ce soit envers les autres animaux ou envers des conspécifiques.
Alors, quand on est chercheur et qu'on a envie de savoir à quoi sert la tâche d'un panda, comment on fait, comment on s'y prend?
Alors, c'est pas simple parce qu'il est très difficile d'aller étudier ça dans le milieu naturel. Donc, l'équipe américaine, en fait, a utilisé une approche comparative entre les différentes espèces de carnivores. Donc, en ayant pour postulat que l'évolution, sur la base de fonctions similaires, aurait conduit à des couleurs et des marques similaires. Donc, en fait, ils ont regardé chez d'autres carnivores et y compris chez d'autres ours, quelle tâche avait quelle fonction. Et en fonction de ça, ils en ont déduit quelle pourrait être la fonction des tâches du panda. Donc c'est vraiment une approche comparative, donc elle peut toujours être discutée, mais c'est la seule approche qu'on pouvait avoir raisonnablement.
Alors ça semble étrange qu'un pelage si contrasté, noir et blanc, puisse être aussi un outil de camouflage.
Oui, mais il faut bien se replacer dans le contexte de vie du panda géant, et pour être allé plusieurs fois dans son milieu naturel et même pour avoir vu un panda sauvage, il faut s'imaginer une forêt de type tropical avec des sous-bois de bambou et il y a en permanence ce jeu d'ombre et de lumière, donc que ça soit l'été ou l'hiver, bon l'hiver il y a souvent la neige en plus, mais quand on voit des photos de pandas dans leur milieu naturel, bien souvent, on pourrait s'imaginer, on voit immédiatement qu'ils se confondent avec la végétation et ce jeu d'ombre et de lumière. Et finalement, le panda, il a adopté ce pelage comme une sorte de compromis, hein, à la fois pour se confondre dans cette forêt tropicale, mais aussi dans des paysages plus hivernaux avec de la neige.
Mais alors,
c'est vraiment une sorte de compromis.
Jérôme Pouille, de qui doit se cacher le panda? Alors, il a beaucoup de prédateurs ou pas?
Alors c'est la question, parce qu'en fait cette étude est conclue à un rôle de camouflage et puis à un rôle de communication. Or, le panda, pourquoi il devrait se camoufler? Parce qu'en fait on sait que le panda a très peu de prédateurs naturels, si je mets de côté l'homme. Le seul prédateur naturel qu'on lui connaisse, c'est la panthère des neiges. Mais dans la réalité, ils se croisent que très rarement et elle est plutôt une menace pour le bébé panda. Donc bon, moi j'ai une question quand même, c'est quel est le rôle de se camoufler envers qui? Donc ça c'est le premier élément. Mmh. Et puis après, d'un point de vue communication, ce qu'on sait depuis une vingtaine d'années, c'est que le panda est un animal solitaire et il utilise du coup principalement la communication chimique et vocale. Et là, cette étude vient nous apporter un nouvel élément, c'est que l'identification grâce aux marques autour des yeux d'un individu, ça sous-entend qu'en effet les pandas puissent se croiser pour se reconnaître. Or, on pensait aujourd'hui que cette communication visuelle, elle était quasiment absente comme la plupart des espèces solitaires.
Et ces taches autour des yeux, alors il faut les voir comme une carte d'identité du panda ?
Alors oui, elles sont vraiment caractéristiques à un panda donné, et on peut imaginer en effet qu'un panda puisse reconnaître un autre panda parmi d'autres sur la simple base de ses taches autour des yeux. Ça avait déjà été mis en évidence par une équipe de chercheurs et de vétérinaires du zoo de Vienne, qui avait confronté des pandas captifs à des formes d'yeux de d'autres pandas, et on s'était rendu compte en effet qu'ils étaient capables de faire la différence entre deux pandas et de garder cette image en mémoire pendant un certain temps.
Mais un pelage, c'est quand même un ensemble de tâches. Est-ce qu'on peut vraiment le résumer à une somme de caractéristiques qu'on peut associer à chaque tâche ? La méthode vous semble bonne ?
Alors, pour un départ d'étude, en effet, la méthode me semble bonne, d'analyser tâche par tâche quelle pourrait être la fonction remplie. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, ce qui est important, c'est d'analyser finalement cette bicoloration d'une manière plus globale, de rendu de l'espèce dans son milieu. J'ai même envie de coupler la couleur à la forme également. Et cet aspect camouflage et communication, à mon avis, se limite pas à une analyse en effet individuelle des tâches, mais plus à un rendu global de cette constellation finalement de couleurs sur son corps.
Alors justement, Jérôme Pouy, est-ce que la position des tâches sur le pelage du panda change au cours de sa vie ou pas ?
Alors la position des taches ne change pas, cependant, que ça soit pour les oreilles ou pour les taches noires autour des yeux, selon la posture que va adopter l'animal, selon l'image qu'il veut finalement laisser transparaître, ses oreilles et ses yeux pourront avoir une apparence un petit peu différente. Donc la tache autour des yeux, selon comment il plisse les yeux, selon comment il positionne sa tête, peut apparaître complètement différemment, même s'il s'agit du même animal. Et pareil, les oreilles, il peut les diriger un petit peu à sa guise et elles peuvent avoir une apparence complètement différente selon la posture et le comportement.
Alors, une dernière question, peut-être plus large, sur la conservation du panda. Comment se portent les pandas en 2017 ?
Alors, les pandas vont un petit peu mieux qu'il y a une dizaine d'années. Donc, la Chine recense ses pandas sauvages et son habitat tous les 10 ans environ. Donc, en 2015, il y a 2 ans, elle a publié les derniers résultats. Il y a eu un effet bonne nouvelle parce que on a annoncé qu'il y avait plus de pandas dans le milieu naturel, ce qui est vrai, avec une superficie d'habitat qui est également plus grande. Cependant, moi, je ternit un petit peu cet effet bonne nouvelle par le fait que cette étude met aussi en évidence finalement que l'habitat du panda est plus fragmenté que 10 ans auparavant. Et même si on a quantitativement plus de pandas, aujourd'hui on a des populations de pandas qui sont qualitativement moins intéressantes ou en tout cas qui pourraient, génétiquement parlant, être menacées à moyen terme. Parce qu'on imagine bien que ces sous-populations, ces populations fragmentées, elles pourraient conduire à moyen terme à l'extinction d'espèces si ces individus ne peuvent pas se rencontrer entre eux ou ne peuvent pas faire face à des catastrophes naturelles, par exemple.
Le problème est lié directement à la menace sur les forêts de bambou elles-mêmes ?
Alors la menace de la disparition de l'habitat, elle est un petit peu temporisée par le fait du statu quo en termes de superficie d'habitat. Mmh. Par contre, la menace qui demeure, c'est en effet la fragmentation de cet habitat.
Merci beaucoup Jérôme Pouy pour vos précisions. Je rappelle que vous êtes le créateur du site panda.fr. Comment vous définissez d'ailleurs, Jérôme, vous qui êtes une sorte d'ambassadeur des pandas ? Je crois que vous avez inventé un mot pour ça.
Oui, alors je suis passionné, mais aussi ambassadeur des pandas, et le terme employé était pambassadeur.
Voilà, ben c'est très joli, on terminera là-dessus. Merci beaucoup, panda.fr.
Merci.
À bientôt Jérôme Pouille, au revoir. Merci Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, et après le panda géant, voici l'éponge géante pour combattre les marées noires. Une équipe d'ingénieurs de l'Illinois vient de mettre au point une éponge réutilisable capable d'extraire le pétrole et les huiles en suspension dans l'eau. Faite d'une mousse de polyuréthane et de plastique expansé, elle est capable d'absorber près de 9 fois son poids fois en déchets pétroliers. Les expériences menées en simulateur de marée noire montrent que ces éponges sont plus efficaces que les matériaux absorbants à usage unique utilisés aujourd'hui. Ces éponges à huile pourraient permettre de réagir donc rapidement en cas de marée noire flottante. Seul inconnu pour le moment, leur efficacité en profondeur, qui devrait être testée bientôt. En tout cas, la vidéo assez spectaculaire est à voir sur le Facebook de la Tête au Carré. L'ordinateur quantique est commercialisé d'ici 5 ans. Voici en tout cas la promesse annoncée hier et que va tenter de tenir le laboratoire Quantum AI de Google. Cette machine révolutionnaire et rendue théoriquement possible par la physique quantique est encore loin d'être prête. Le problème que rencontrent actuellement les constructeurs, eh bien, c'est la nécessité d'isoler parfaitement le processeur du monde extérieur sous peine justement de voir disparaître les effets quantiques tant recherchés. Nouvelle piste lancée par Google, donc créer des processeurs fonctionnant avec de faibles niveaux de perturbation plutôt que de créer une isolation parfaite qui est apparemment trop complexe et trop coûteuse à obtenir. Et puis, privilégier le sexe à la maison serait bon pour votre carrière. Cette drôle de corrélation nous vient aussi des États-Unis, où un groupe de chercheurs s'est intéressé aux habitudes des travailleurs entre le bureau et la maison. Ils montrent que les employés vivant une relation stable avaient plus de réussite dans leur carrière et d'autant plus s'ils avaient également des rapports réguliers avec leur compagne ou compagnon. Parmi les autres résultats notables, les chercheurs notent que lorsque le stress du travail s'immisce jusque dans le couple, l'activité sexuelle avait tendance à décliner.